RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous levons les yeux vers le ciel, aujourd'hui vers l'océan d'en haut, comme l'appelait Victor Hugo, l'espace que nous avons réussi à polluer avec des milliards de déchets et de débris en quelques dizaines d'années. Un espace électrique où les échanges d'énergie entre le soleil et la Terre, nous l'avons vu dans la première partie de l'émission, sont d'une grande intensité et ce n'est pas sans conséquences. Alors comment pouvons-nous réagir face à tout cela? On en parle avec nos trois invités, Jean Lilienstein de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, qui est en duplex de Grenoble grâce aux équipes techniques de France Bleu Isère, Olivier Grunewald, photographe et chasseur d'aurore boréale, et Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois. Alors en juin 2011, Jackie Bonnemain, vous avez donc publié un rapport sur les déchets dans l'espace, un phénomène qui devrait, je dis bien qui devrait, nous préoccuper de plus en plus.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
What the hell was that?
Où vont-ils? Ils n'en savent rien.
Quand on regarde la courbe du nombre d'objets dans l'espace, on constate une augmentation quasi linéaire depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, avec une pente qui est de l'ordre de 220-250 objets par an supplémentaires, objets catalogués.
La chaîne de débris est hors contrôle et en expansion rapide. Les satellites multiples sont hors ligne, ils tombent comme des mouches.
Don Kessler, ingénieur à la NASA, avait prédit ça en 1991. Donc c'était prédit il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est arrivé.
Kovatsky, débris en visuel à 9h.
Explorer, je répète, attendez-vous à un blackout radio à tout moment.
Bien reçu, Houston.
Je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite BSE.
Et maintenant, la prise de conscience, c'est que c'est bien, ça ralentit les cours, mais ça ne suffira pas. Il va falloir faire le ménage. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui.
Eh oui, le problème, c'est qu'il va falloir faire le ménage. Alors, Jackie Bonnemain, ces débris, ces déchets qui sont donc dans l'espace que l'on a semé en plus de 50 ans de conquête spatiale, est-ce que c'est dangereux?
D'abord, c'est dangereux pour l'industrie spatiale elle-même. Les débris sont des projectiles. Et donc, ils peuvent rentrer en collision avec ou bien des vaisseaux spatiaux habités, ce qui oblige à des manœuvres d'évitement extrêmement dangereuses et coûteuses et qui épuisent le fioul résiduel des vaisseaux spatiaux habités. Mais aussi, c'est dangereux pour les satellites déshumanisés, sans personne à bord, mais qui sont absolument indispensables aujourd'hui à la vie sur Terre. Et donc, on peut imaginer, non seulement à cause des champs magnétiques en provenance du Soleil, mais aussi à cause des collisions avec les déchets, ça aussi, ça peut être une source de blackout et de perte de communication, de géolocalisation, de prévision météo. Ça peut aboutir à une véritable catastrophe terrestre sur Terre. Et puis, c'est un danger pour l'environnement aussi, à notre avis, parce que finalement, là où sont les satellites, ce n'est que la banlieue de la Terre. L'espace est infini, mais nos satellites, ils sont au maximum à 35 000 km de haut, c'est la banlieue. Pour nous, c'est l'environnement et il doit être le plus propre, le plus naturel possible. L'espace, il y a des bactéries, il y a peut-être des sources de vie. Enfin, à notre avis, il faut le respecter autant que la mer. Il y a un grand vide dans l'espace, c'est le vide juridique. C'est seulement en 67 qu'il y a eu un traité sur la Lune et les autres corps célestes. C'est seulement en 72 qu'il y a eu une convention internationale pour régler les problèmes financiers dus à des retombées d'objets spatiaux sur Terre. Et maintenant, on en est à des guides de mitigation, de diminution de production des déchets, dans lesquels plusieurs agences spatiales sont vraiment actives, dont l'Agence spatiale européenne. Mais maintenant, le chalut à déchets qui naviguerait entre les débris et les satellites hors d'usage et les satellites actifs pour nettoyer l'espace et revenir avec sa collecte sur Terre, c'est de la science-fiction.
Jean Lilienstein, est-ce qu'on peut faire le ménage ?
C'est compliqué. C'est compliqué d'un point de vue technique, mais comme le disait Jackie, c'est compliqué d'un point de vue politique et légal. Par exemple, qui a le droit d'aller chercher un débris bourré d'électronique envoyé dans l'espace par les Chinois? Est-ce que ce sont les Chinois, les Russes, les Américains ou qui? et à qui appartient le débris ? Parce qu'évidemment, il y a tout un tas d'enjeux, d'enjeux technologiques derrière et d'espionnage industriel. Donc ce problème juridique là qui doit être traité, parce que tant qu'il ne sera pas traité, on ne pourra pas mettre en place les solutions technologiques. Il est traité au niveau de l'ONU par une branche de l'ONU qui s'appelle COPIOS. Bon, moi j'ai été un peu invité là-dedans en tant qu'expert, mais je connais pas la juridiction, c'est quelque chose que je trouve extrêmement compliqué. Hein. Et ça, c'est un verrou à faire sauter extrêmement important.
Olivier Grunewald, j'imagine que ça vous désole, vous qui êtes chasseur d'aurore boréale, de constater qu'on a polluer l'espace comme ça, et en même temps vous vous servez de ces outils puisque vous êtes toujours en quête d'éruptions solaires pour aller faire vos photos.
Oui, alors je suis désolé de ce qui se passe sur le soleil, dans la haute atmosphère terrestre, mais je suis bien plus désolé de ce qui se passe sur la Terre, qui est beaucoup plus visible. Pour revenir malgré tout quand même aux impacts de ce que peuvent générer les éruptions solaires, il faut imaginer qu'il y a quand même des choses qui sont peu connues. Par exemple, le fait qu'en cas d'éruption solaire, l'afflux de particules corrode des pipelines, spécialement ceux qui sont dans les zones de l'Arctique, que ce soit l'Arctique russe, l'Arctique, l'Alaska, l'Arctique canadien. Donc ça veut dire des pipelines qui peuvent fuir avec une pollution considérable. Il peut y avoir des modifications très légères du champ magnétique terrestre et les industriels qui travaillent dans le forage pétrolier se retrouvent à être obligés de tenir compte des éruptions solaires parce que si le champ magnétique bouge très légèrement, leur trépan à très grande profondeur peut rater la poche de pétrole. Donc il y a des tas de conséquences qui sont considérables. Également l'exposition des astronautes, du personnel navigant dans les avions. Les blackouts radio ont amené des avions à se retrouver sans connexion pendant presque une heure au-dessus du Groenland.
Et ça, c'est pas prévisible.
Maintenant, on commence à se rendre compte, et en cas de très forte éruption solaire, la course des avions qui passent dans les zones arctiques est déviée à cause de ce problème d'exposition et du personnel navigant et des passagers au vent de particules. Et il y a eu l'exemple avec les GPS, je crois que c'était pendant la première guerre du Golfe, où il y a eu une perte de précision de GPS qui a amené une perte de précision de tir et donc des opérations militaires qui ont été ajournées ou qui n'ont pas du tout bien fonctionné.
Alors Jean Lilienchen, du coup, c'est pour ça que, enfin, vous en êtes d'ailleurs l'un des initiateurs, hein, la météorologie de l'espace se développe.
Oui, la météorologie de l'espace se développe. Une partie de nos industriels a compris qu'elle était soumise à des aléas. Et nous demande, nous autres astronomes, de pouvoir prédire ces aléas et quantifier leur impact sur la Terre. Donc ça se développe relativement vite. Il y a des chiffres qui peuvent faire un peu peur. Je vais vous en citer, puis juste après, je vais vous dire quand même ce qu'il faut en penser. Tout à l'heure, on a parlé du plus gros événement connu qui s'est passé en 1859. C'est Olivier qui en a parlé, qui était une énorme éruption solaire. Elle a eu plein d'impacts sur la Terre alors que on était dans une société bien moins technologique qu'aujourd'hui. Et il y a l'an dernier un rapport de l'Académie des sciences en Suisse qui a estimé qu'un événement identique aujourd'hui coûterait 1 à 2 000 milliards de dollars et prendrait 4 à 10 ans en réparation. Et un événement Carrington, on pense qu'il peut se produire tous les 100 à 200 ans. Donc voilà, donc évidemment, nos industriels commencent à prendre ça au sérieux. Néanmoins, il faut prendre conscience que toutes les grandes catastrophes industrielles jusqu'à présent n'ont pas une seule cause, parce que les gens savent bien se prémunir d'une cause, mais deux causes concomitantes. Et la difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est que les gens qui travaillent sur les risques n'ont pas pris en compte aujourd'hui le risque de météorologie de l'espace. Il peut y avoir, par exemple, une éruption solaire en même temps qu'une grande vague de froid. Deux causes. Ils savent parer une vague de froid, mais ils ne savent pas parer une vague de froid plus une éruption solaire. Et donc le travail auquel nous nous adressons aujourd'hui, c'est en particulier aller voir les gens qui travaillent sur les risques et leur dire « prenez en compte ce que nous découvrons et rentrez-le dans vos calculs d'aléas de telle sorte que vous soyez capable de prendre en compte deux choses, dont une éruption solaire ».
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cela ? Est-ce qu'il y a beaucoup de météorologues de l'espace comme vous ? J'imagine que vous travaillez en réseau.
Oui, on travaille en réseau, c'est planétaire. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est planétaire dans les pays qui ont une activité spatiale, ce qui réduit quand même considérablement.
Oui, parce que tout ça coûte très cher, évidemment. Oui.
Voilà, tout ça coûte extrêmement cher. On travaille en réseau. En France, on est un groupe d'une centaine de physiciens théoriciens qui, de près ou de loin, travaillent sur les relations, ce qu'on appelle pompeusement les relations Soleil-Terre. C'est un programme national du CNRS. Au sein de cette centaine de chercheurs, on doit être une dizaine à travailler à proprement parler sur la météorologie de l'espace.
Il y a donc, vous me disiez, des collègues chinois, des collègues d'Amérique du Sud, enfin, ça, tous les pays commencent à se pencher sur cette discipline qui est quand même relativement récente. Et comme vous l'expliquez, c'est un problème planétaire, donc il faut organiser des conférences internationales. Hein, c'est ce qu'on fait pour le changement climatique, c'est ce qu'on fait, donc j'imagine, aussi sur ces enjeux-là, comme pour les déchets, les débris solaires, pour essayer de composer avec cet environnement.
Voilà, exactement. Alors, il y a des centres de prévision avec des prévisionnistes. Le plus important, maintenant, se trouve à Bruxelles pour l'Europe et à Boulder pour les États-Unis. Mais il y en a au Japon, il y en a en Chine, il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Australie, il y en a un peu partout, des centres de prévision. Et on travaille, bien sûr, en réseau. On a une grosse activité pour arriver à améliorer nos prévisions tous ensemble. Hein. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. On se réunit aussi une fois par an. Alors, il se trouve que c'est moi qui ai créé ce meeting international il y a une douzaine d'années, qui a lieu en Belgique tous les mois de novembre, où on adresse absolument tous les problèmes, les débris spatiaux, comme les satellites, les lancements de fusées, et puis la théorie, enfin tous ces problèmes-là. On est obligé de discuter et d'échanger, et ça c'est quelque chose de passionnant en science.
Mais est-ce que, Jackie Bodemain, on imagine qu'il y a beaucoup, enfin on entend là qu'il y a beaucoup d'investissements sur la prédiction de ces éruptions solaires, parce qu'on voit bien que les conséquences pourraient être, comme Olivier l'expliquait, colossales. Il y a moins de mobilisation sur les débris.
L'industrie spatiale, Chine, États-Unis, France, Russie et bien d'autres pays commencent à comprendre que c'est un problème de sécurité pour eux, donc un problème de rentabilité. Et donc il y a indiscutablement une prise de conscience et il est absolument nécessaire, et ça se met en route, qu'une coopération internationale s'établisse et que un certain nombre de manœuvres stupides comme ce qui a été fait il y a quelques années par les Chinois qui sont allés abattre un de leurs satellites météo à 840 km d'altitude avec un missile dans le cadre d'un essai militaire, ce genre d'initiative est évidemment maintenant banni et on espère vraiment que les Chinois ne recommencent pas.
Oui, parce que ça crée des milliers de
150 000 déchets catalogués. C'est l'une des plus grosses causes de déchets catalogués, c'est-à-dire supérieurs à, je ne me souviens plus le nombre de centimètres, dans l'espace. Et donc, ce genre d'attitude nationaliste dans un espace commun, dans un patrimoine commun, j'espère que c'est plus possible maintenant.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Satellites gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. Love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. Love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de notre environnement spatial aujourd'hui avec nos trois invités. Jean Lilienstein de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, Olivier Grunewald, photographe et chasseur d'aurores boréales, et Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois. Alors Jean Lilienstein, vous nous disiez la météorologie spatiale se développe. Est-ce qu'on est clairement capable de prévoir les tempêtes solaires aujourd'hui et avec quelle précision ?
Oh, j'ai l'habitude de nous comparer aux météorologues du début du XXe siècle. On n'est pas encore très capable de les prévoir. On avance, on a plusieurs indices qui nous permettent de dire peut-être qu'il va y avoir une éruption d'ici quelques heures ou quelques jours, mais c'est encore balbutiant. On avance quand même relativement vite. Ça veut dire qu'on est capable maintenant, de façon relativement fiable, de dire à des opérateurs spatiaux « ne lancez pas de fusée dans les deux jours qui viennent, là c'est vraiment chaud pour vous ». Ou de dire à des opérateurs en avion « bon, là, ça vaut mieux d'éviter de passer trop près du pôle nord ou du pôle sud, contournez un petit peu parce que vous allez recevoir beaucoup de radiation ». Voilà, ça c'est les choses qu'on est capable de faire. On balbutie encore, je dois dire qu'on a beaucoup de progrès encore pour avoir des prévisions fiables et certaines.
Alors quand vous dites, par exemple, prédisez qu'il faut décaler le lancement d'une fusée de deux jours, juste une petite question, parce qu'on parlait des déchets spatiaux, etc. Quelle est la quantité d'engins, ou je ne sais pas, de matière, envoyée de la Terre vers l'espace par année, par exemple? Est-ce qu'on peut mesurer ça?
Bien, je pense que on tourne autour de 500 satellites en activité, en exploitation, au travail, et environ 2500 satellites hors d'usage qui sont ou bien en orbite cimetière ou bien qui sont retombés dans les couches denses de l'atmosphère, et la plupart du cas, sauf exception, en mer.
Mais on en lance beaucoup chaque année ?
Ah oui, plusieurs dizaines, bien sûr.
Ouais, donc le phénomène s'accentue. Olivier Grunewald, vous me disiez, on a frisé la catastrophe en juillet 2012, ça veut dire quoi ?
Alors en fait, pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe, quand on essaye de suivre l'activité solaire pour un chasseur d'aurore, on regarde l'évolution des taches solaires, et les taches solaires, si elles sont très importantes, peuvent se retrouver à émettre à avoir des éruptions. Et maintenant, ces éruptions, on arrive à savoir de manière assez précise s'il y a une grande quantité de particules qui va partir, si elle part dans la direction de la Terre, et même on arrive à pratiquement prévoir l'heure de l'impact de l'arrivée de ces vents solaires. Et en juillet 2012, il y a eu 3 éruptions solaires quasiment à la suite, et elles ont interagi ensemble pour créer un immense vent de particules dirigé vers la Terre.
Qui arrive
à une vitesse folle, 8 millions de kilomètres secondes. Mais en fait, le vent de particules a raté la Terre. Ce qui arrive quand même assez souvent, malgré toutes les prédictions, il y a des modèles qui sont créés, et on voit l'éruption qui part en direction de la Terre, qui peut partir vers d'autres planètes, parce qu'il y a des aurores boréales, et les autres planètes sont aussi impactées, il y a des aurores boréales sur d'autres planètes. Et on sait à peu près que le vent va avoir a des chances d'avoir telle vitesse, telle densité, et donc, du coup,
Tant pis pour les aurores boréales que vous auriez peut-être pu photographier à ce moment-là, mais tant mieux pour la Terre, pour les humains en tout cas, parce que ça aurait eu des conséquences peut-être très importantes sur de nombreux systèmes d'information.
Tout à fait, mais par contre, comme c'était en juillet, on ne voit pas d'aurore boréale dans l'hémisphère nord au mois de juillet, puisqu'on arrête d'en voir en gros à la fin du mois d'avril pour que ça recommence.
Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si c'était arrivé sur la Terre ?
Ça aurait été des satellites endommagés, des gros problèmes électriques, tout ce qui est réseau boursier. Ça, c'est une prédiction de l'OCDE, un coût de 17 milliards d'euros en cas de blackout pendant quelques heures du cloud computing qui permet de maintenir les réseaux boursiers au niveau mondial en temps réel. Et donc, ça serait des pertes absolument considérables. Donc, toute une série d'activités liées à la télécommunication, liées à Internet, liées au GPS, peuvent être de toute façon affectées.
Ça pose la question de notre dépendance à la technologie, Jackie Bonnemain.
Oui, et ça montre surtout au public que la vie sur Terre est dépendante des satellites et des débris et des déchets dans l'espace. Et nous, on veut absolument, parce que le traité sur la Lune, il est bien gentil, il date de 67, mais personne ne l'a signé. ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis. En 2010, la France était en voie de signer.
Mais il dit quoi, ce traité sur la Lune?
Bah, c'est sympa, c'est une espèce de reproduction, de prolongement du traité de l'Antarctique. C'est-à-dire, pas de droit de propriété, pas d'installation militaire, distribution équitable des éventuelles ressources exploitées. Il dit plein de choses. Respect des éventuelles formes de vie, même si elles sont élémentaires. Donc il est vraiment positif, mais personne ne l'a signé. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au-delà, il y ait vraiment une convention internationale sur la gestion des déchets dans l'espace. Et dans, non seulement dans l'espace, dans la banlieue de la Terre, mais aussi dans l'espace extraterrestre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on envoie des sondes à perpète sur Vénus et autres, et sur Mars, fonctionnant au plutonium. Et donc, il y a une utilisation de l'énergie nucléaire qui doit là aussi être contrôlée. Surtout si au moment du, à tout moment, mais surtout aussi au moment du lancer, s'il y a un accident.
Jean Lilienstein, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut envisager, un traité comme ça, est-ce que vous sentez que c'est une préoccupation qui monte?
Je suis désolé, moi je suis pas compétent pour parler de ça. Alors,
c'est une préoccupation qui monte. Il y a des conventions surtout sur la protection de l'Atlantique du Nord-Ouest, de l'Atlantique du Nord-Est, de ceci, de cela. Et quand on discute avec les industriels, on se rend compte qu'ils ont besoin d'une coopération internationale. Donc elle monte, cette nécessité.
Jean Lilienstein, est-ce que dans les décennies qui viennent, vous pensez que c'est une problématique qui va s'amplifier parce que, on le disait, on lance de plus en plus de satellites dans l'espace, on est de plus en plus dépendant de cette technologie, on fait un peu l'autruche finalement?
Je pense pas qu'on fasse autruche. C'est certain, absolument certain, que la météorologie de l'espace va connaître un grand essor. Et j'espère que d'ici quelques années, on aura régulièrement à la télévision le bulletin de météorologie de l'espace. Il ne s'agit pas de faire peur. Je déteste le sentiment de peur qu'on peut mettre chez les gens, de les stresser. Il s'agit simplement d'avoir son libre arbitre et d'être informé. On sait qu'il va y avoir, dans 3 jours, une grosse éruption solaire et que ça va créer des perturbations dans les télécommunications. Attention, faites bien les sauvegardes de vos disques durs et puis on va mettre en veille un certain nombre de satellites pour pas qu'ils soient affectés. Voilà le genre de choses vers lequel on tend. C'est certain que d'ici quelques années, on y arrivera.
En tout cas, Olivier Grunewald, on se sent tout petit hein, quand on parle de ces enjeux.
C'est vrai que quand on est face à une aurore boréale très intense, qu'on voit vraiment quelque chose de complètement magique, on se sent à ce moment-là un petit peu connecté avec les forces du cosmos. Et ça paraît un petit peu désuet de le dire, mais quand on est face à des spectacles pareils, on prend la dimension de notre place en tant qu'être humain, la place de la Terre dans le cosmos, et on est face à... C'est vraiment... une telle puissance, des couleurs, tout est en mouvement, c'est absolument féerique.
Une leçon d'humilité.
Une leçon d'humilité, tout à fait.
Et on en a bien besoin, Jackie Bonnemain, de perdre un peu d'arrogance, nous les humains.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ce qui est un peu en évolution, c'est que quand on regarde le ciel, maintenant, on voit pratiquement plus de satellites que d'étoiles filantes. Et donc, ça aussi, c'est... une perspective nouvelle, quoi. L'espace devient technologique.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Olivier Grunewald, vous pouvez donner l'adresse du site sur lequel on peut voir vos photos, puisque vous nous avez fait rêver avec les aurores boréales.
C'est très simple, c'est www.oliviergrunewald.com.
Voilà, si on n'a pas compris, de toute façon, le lien sera sur la page internet de l'émission. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir à l'émission ou témoigner sur ce qui se passe près de chez vous à c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, hashtag c'estpasduvent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde et aux équipes de France Bleu Isère qui ont permis d'assurer le duplex avec Grenoble. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à samedi prochain, même planète. Même heure. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.